Autour de moi, à nos micros, nous avons Isabelle. Bonjour Isabelle. Pour échanger sur le parcours d'accompagnement dont vous avez bénéficié. Et nous avons également Muriel Mougéard du CIBC, avec qui nous échangerons également autour, en particulier, du témoignage d'Isabelle. Bonjour à vous, Isabelle.
Bonjour.
Alors, Isabelle, vous, votre parcours, initial. Vous étiez titulaire d'un BEP construction et topographie. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est ce BEP construction et topographie ?
Alors ce BEP construction et topographie parle beaucoup d'architecture, de géomètre et de topographie, donc les relevés des sols avant la construction ou les routes.
Alors ça, c'était votre formation initiale. Ensuite, vous avez travaillé également dans l'entretien, le nettoyage. Et puis, si je dis pas de bêtises, vous me rectifiez si je dis bêtises. À la naissance de votre fille, ensuite, vous n'avez plus d'activité professionnelle en particulier. Et vous vous êtes investi dans le milieu associatif. Et notamment, vous avez été bénévole sur les aides aux devoirs, sur les élèves en primaire et en collège, notamment avec l'association Aide et Versa. Comment ça vous est venu, cette envie d'être bénévole sur l'accompagnement scolaire, enfin sur l'aide aux devoirs ?
Alors, ma fille est née malentendante, donc elle a eu beaucoup de retard scolaire. Donc elle a intégré l'association pour l'aider à avancer. Je les ai aidés beaucoup ponctuellement. Puis ça m'a donné envie de m'investir réellement. Donc en septembre 2016, je me suis investie. Donc j'ai commencé par l'aide aux devoirs. Et puis j'ai continué sur tout ce qui est atelier. Et puis j'ai commencé par être intéressée par le bureau, m'intéresser aux réunions.
Voilà, les réunions de bureau, c'est l'organe dirigeant de l'association.
Voilà. Et j'ai, avec la confiance qu'il y avait, j'ai remplacé par intérim, on va dire, le président lui-même.
Donc oui, voilà, il y a eu un gros investissement, oui. Isabelle. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, on voit bien ce que ça peut apporter à des élèves, l'accompagnement scolaire, l'aide aux devoirs. C'est assez clair, j'imagine, pour tout le monde. Mais j'imagine que c'est dans le cadre d'un échange. Et l'association s'appelait Aide et Versa, hein, c'est pas par hasard. J'imagine que ça apporte des choses aussi d'accompagner des jeunes.
Oui, parce que moi, il y a 2 ans, je ne serais pas là, on va dire. J'étais très timide. Je n'aurais pas parlé en public, je n'aurais même pas parlé à personne, de toute façon. Ça m'a apporté à m'ouvrir au tout le monde. Ça m'a aussi appris à être très patiente, parce que je n'étais pas autant. Ça m'a appris beaucoup de choses sur l'humain par lui-même.
Alors j'ai la sensation, et vous rectifiez quand je dis des bêtises, hein, surtout n'hésitez pas Isabelle, j'ai la sensation que voilà, ça vous a apporté des compétences autour de la communication, autour de l'échange, mais aussi un peu de confiance en soi, j'ai l'impression, non ?
Oui, beaucoup de confiance en soi, oui. Ça a changé beaucoup, beaucoup. Et oui, sinon, oui, en compétences, connaissances, tout ça, oui. Oui, parce qu'apprendre à un enfant, et puis qu'il vienne nous voir en nous disant « j'ai eu une bonne note », c'était vraiment... la récompense qu'on attendait, et puis voir un enfant, même encore aujourd'hui, qui ne fait plus partie de l'association, qui vient nous sauter dans les bras quand on croise ou autre, parce qu'il est content de nous revoir, c'est vraiment la récompense qu'on attend en tant que bénévole.
J'imagine, c'est assez gratifiant quand même, oui. D'avoir ce type de retour. Alors, au démarrage, vous investissez sur l'aide aux devoirs, sur l'accompagnement de ces enfants, de ces jeunes, et puis, vous le disiez en début d'échange, rapidement, vous prenez des responsabilités quand même dans l'association, et vous allez au-delà de cet investissement initial d'accompagnement des jeunes, et vous arrivez sur l'organe de fonctionnement de l'association, Aide et Versa.
Oui, oui. Alors au départ, j'ai fait juste les ateliers.
Donc, les ateliers, c'est-à-dire ?
Donc on a fait sécurité routière avec la police municipale.
Oui, ça va donc, déjà au-delà de l'aide aux devoirs pur et dur, voilà, vous attaquez les ateliers.
Voilà, on a mis en place beaucoup d'ateliers comme ça. On a fait des soirées Halloween, soirées sapin de Noël, ce genre de trucs. Et puis, le fonctionnement du bureau commence à m'intéresser. Donc, avec la permission de Laëla Nouissière, qui était l'animatrice référente, et de M. Godizard, qui était
le président,
je me suis intéressée en réunion, où je suis venue plus d'une fois aux réunions. Et ça a permis aussi, par rapport aux dirigeants, de leur montrer qu'on peut être parents des enfants dans l'association, mais aussi très investis. Parce que sur le quartier de Netroville, beaucoup disaient que les gens de Netroville ne bougeaient pas. Donc ça a montré que pendant les réunions, il y avait des parents qui bougeaient.
Oui, c'est ça. C'est facile de dire les gens bougent pas, mais voilà. Ils viennent quand même s'investir dans les réunions, s'investir dans l'action en direct avec les enfants.
Ça montrait que le quartier de Netroville n'était pas que des gens qui ne bougeaient pas, qui attendaient que ça se passe.
Alors, dernièrement, l'association Edeversa a été dissoute. On l'a vu notamment dans la presse, hein, dernièrement. On ne va pas revenir, mais notamment, il y a des liens avec les contrats aidés. La disparition de contrats aidés n'a pas aidé forcément l'association à fonctionner. Mais votre investissement ne s'est pas arrêté pour autant.
Non, bah non, parce que normalement, si l'association avait continué, je serais la présidente aujourd'hui. Mais vu qu'elle a été arrêtée, je ne voulais pas arrêter. Moi, mon plaisir était de continuer à aider les enfants. Donc, l'association A2E a repris, j'ai repris avec eux. Aujourd'hui, je suis bénévole pour l'aide aux devoirs tous les soirs auprès des enfants.
Très bien. Donc, vous avez finalement continué la même action. Et puis, bon, bah, si la structure change, alors bien entendu, on est toujours attaché à une association. Puis, la disparition d'une association ne réjouit jamais, ça réjouit personne. Mais du coup, vous avez quand même rejoint une autre structure qui propose également l'accompagnement scolaire. Donc c'est vraiment en vous, j'ai l'impression, cette motivation à accompagner les enfants et les jeunes dans leur parcours scolaire en l'occurrence.
Oui, c'est rentré en moi et je voulais continuer sur le quartier de Netroville. Les enfants de Netroville en ont besoin.
Alors, ça va même au-delà de tout ça. C'est qu'en fait, ça a même permis, là, en septembre dernier, donc vous étiez bénéficiaire du RSA. Au niveau du département, ils vous ont orienté vers la CIBC pour revoir votre projet professionnel, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Et bien, du coup, cet investissement s'est traduit par une orientation professionnelle, je crois.
Oui, en effet. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé le métier que je souhaitais faire.
Alors, parlez-nous-en un petit peu.
Bon, je me lance dans le BPJEP. Qui est une formation pour devenir animatrice socioculturelle.
Très bien, donc c'est un diplôme qualifiant et professionnel dans l'animation socioculturelle. Et c'est l'objectif. Alors comment ça s'est passé c'est en septembre dernier, c'est ça que vous avez été orienté sur la CIBC. Comment ça s'est passé concrètement? Vous avez poussé la porte de la CIBC et alors?
J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont bien aidé. Des gens très gentils, une équipe d'encadrants très, très dynamique. Qui m'ont orienté parmi les formations, parce que j'avoue que quand je suis arrivée, je ne savais pas quelle formation faire.
Vous savez ce que vous vouliez faire, mais pas comment.
Voilà, pas comment. Donc maintenant, je suis suivie par Delphine Achard, qui m'aide beaucoup aussi dans mes décisions et dans son orientation.
C'est-à-dire, vous avez fait... Alors, comment ça se passe? Vous m'avez dit, vous avez fait un Cléa. Là, il va falloir que vous m'expliquiez. Je ne suis pas très au point là-dessus.
Oui, donc j'ai passé, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, le Cléa que j'ai validé. Donc là, c'est le socle de connaissances et de compétences.
D'accord. On a Muriel Mougère avec nous. Elle nous en parlera mieux là. Mais concrètement, du coup, vous avez validé à travers ce CLEA un certain niveau, j'imagine, ou en tout cas un certain niveau de compétences qui a permis de vous positionner sur ce fameux BPJEPS.
Oui, voilà. Oui, c'est ça. Tout à fait.
Alors le parcours, comment il se dessine là dans l'avenir maintenant que vous savez vers quoi vous orientez, comment ça va se passer dans les mois, dans les semaines à venir?
Donc là, dans les semaines à venir, je suis en stage à Sivio Sigal, à Guichainville. Donc je vais faire mon...
C'est un centre d'animation enfance.
J'espère pouvoir faire un stage au centre maternel pour me perfectionner dans les tout-petits.
En école maternelle, c'est ça? Très bien.
Tout petit. Et après, j'espère entrer. Donc, je suis en train de voir avec les centres de formation, entrer dans la formation BPJEPS.
Très bien. Donc, voilà, il y a un avenir qui se dessine, là. Il y a des stages qui devraient avoir lieu. Une entrée en formation suite à des sélections, bien entendu. Puis après, c'est parti?
Oui, c'est parti après.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette démarche, vous auriez pu la faire sans rencontrer des conseillers particuliers, en l'occurrence ceux de la CIBC?
Je ne pense pas, parce que je ne savais pas du tout par où aller.
Pour terminer, Isabelle, bon, même si maintenant vous vous orientez, vous n'allez pas arrêter de faire cet accompagnement scolaire, ces aides aux devoirs?
Non.
Non, on continue?
On continuera aussi longtemps que je peux.
Très bien. Je vais me retourner, restez avec nous, hein, Isabelle, et n'hésitez pas à compléter. Je vais me retourner vers vous, Muriel Mougéard. Vous êtes directrice de la CIBC. On a évoqué tout un tas de choses dans le parcours d'Isabelle. Et notamment, moi, je voulais revenir sur le démarrage. Elle nous disait, elle était au RSA, elle était orientée par le conseil départemental qui gère du coup les bénéficiaires du RSA. Au niveau de la CIBC, comment on fonctionne? Est-ce que c'est par prescription, du coup? Est-ce que c'est par envoi de public que la CIBC accueille ces personnes qui, j'imagine, n'ont pas tous les mêmes besoins?
Tout à fait. Bonjour. Donc au CIBC, effectivement, on a plusieurs dispositifs et sur la plupart de ces dispositifs, les personnes doivent nous être orientées. Vous parliez tout à l'heure de pousser la porte. Malheureusement, ce fut le cas à une époque, mais aujourd'hui, les gens peuvent plus se permettre de pousser la porte des associations parce qu'on est obligé de mettre des gens dans des cases. Et du coup, voilà, là, l'idée, c'est sur un forum, on peut les rencontrer, les personnes, mais il faut qu'on arrive à les faire rentrer dans ces cases et ces orientations, notamment par le département pour ce qui concerne les bénéficiaires du RSA. Donc le deal pour nous, c'est de faire en sorte que ces personnes qui arrivent quand même sur la base d'une convocation, hein, sur la base d'une contrainte, parce que le RSA c'est des droits mais c'est aussi des devoirs, ils soient contents de rester avec nous. C'est tout le challenge parce que c'est pas forcément évident. Enfin moi la première, quand on me force à aller quelque part, j'ai pas forcément envie de rester. Donc là c'est leur donner envie de rester. Donc
a priori, pour Isabelle ça a fonctionné, voilà, hein, l'envie bon. de trouver des réponses en tout cas.
Bah oui, c'est ce que j'avais demandé au RSA, donc orienté là, j'ai pas dit non, puisque c'est ce que je voulais. Donc,
Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde, en tout cas au départ. Après, c'est tout notre challenge à nous de faire en sorte qu'ils se sentent bien chez nous. Ça passe par plein de choses, hein. Ça passe par un confort au niveau du lieu, ça passe par du café, ça passe par effectivement un respect des personnes. Donc pour faire le lien avec ce que vient de dire Isabelle, notre première règle déjà, c'est de considérer qu'une personne qui passe la porte, elle a des ressources, elle a des talents, elle a des compétences, elle a une motivation qui ne se voit pas forcément d'emblée parce qu'ils ne sont pas ravis d'arriver, qu'il faut que nous, on aille chercher un petit peu et le plus rapidement possible parce qu'il faut qu'ils restent avec nous. Ils sont assez surpris de ce positionnement, souvent, parce que ce n'est pas forcément un positionnement qui est très habituel. Et du coup, en général, ça se passe plutôt pas mal.
On accompagne surtout quand on a eu une rupture avec l'emploi, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en phase de réussite. Et du coup, ce n'est pas forcément des choses positives qui ont été renvoyées jusque-là.
Et puis, ce sont des personnes qui ont vécu de multiples accompagnements. Et c'est vrai que s'ils sont encore là, c'est que ça n'a pas fonctionné et je me mets tout à fait à leur place. Alors on leur promet pas la baguette magique, on leur promet du respect et de les voir d'un angle positif. Et ils ont tous, et on le voit avec Isabelle, des talents absolument incroyables, même si l'expérience elle n'est pas forcément là, le niveau de diplôme n'est pas forcément là. Il y a des talents qui ont été développés. Les mamans avec enfants, elles développent des talents tous les jours. Les papas, ils peuvent bricoler. Enfin bon, voilà, il faut aller les chercher.
Vous êtes dans les stéréotypes. Hein. Il y a des papas qui sont très bien avec les enfants.
Hein. Ouais. Mais je parle de stéréotypes, mais je parle aussi de notre réalité quotidienne. C'est souvent ça. C'est pas nous qui allons faire le changement de culture. En tout cas, pas aujourd'hui, pas maintenant, tout de suite.
Moi, je retiens déjà cette notion, effectivement, de considérer l'humain dans une intégralité qui n'est pas uniquement de la compétence professionnelle. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très, très important. Ouais. Je retiens également cette notion d'accueil humain, d'accueil social, en fait. Globalement et dans la bonne définition du mot, j'ai envie de dire,
dans cette
définition.
Ce que vous entendez par social, c'est par exemple, nous, le premier truc qu'on essaie de voir, c'est pas les freins. Vous savez, les fameux freins à l'emploi. Nous, ce qu'on essaie de voir en premier, ce sont les ressources. Et c'est sur la base de ces ressources qu'on va effectivement dépasser les difficultés. Si on n'a pas de voiture, on peut peut-être s'appuyer sur la famille. On joue les solidarités également, parce que c'est de l'accompagnement collectif. Donc, ceux qui sont plus en difficulté peuvent être aidés par ceux qui le sont moins, parce qu'on a toutes sortes de personnes, parfois des personnes très diplômées, des personnes qui sont très disponibles, d'autres moins. Enfin, voilà, on joue avec ça. Et c'est vrai qu'Isabelle, elle est rentrée tout de suite dans cette dynamique avec plaisir. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais elle y a trouvé son compte assez rapidement. Et du coup, on l'a mobilisée sur plein de trucs. On s'est amusé à faire un forum intergénérationnel. Et c'est vrai que ça contribue à la valorisation et du coup à la confiance en soi.
Et j'aime bien, vous dites, nous nous sommes amusés avec un forum intergénérationnel. Et cette notion-là, elle est importante aussi.
Pour nous aussi.
C'est pour ça que je me permets d'insister. insister hein, sur cette notion justement où voilà, la personne qui cherche son orientation professionnelle ou en tout cas qui se réoriente ou peu importe d'ailleurs les situations, en tout cas, il peut y avoir du plaisir aussi à se trouver ou à trouver son orientation ou à trouver le bon parcours. Oui. Je voulais revenir sur la notion de Cléa. On l'a abordée très rapidement avec Isabelle et puis on a laissé tomber pour tout décrire. On s'était dit que vous seriez bien mieux que nous pour nous parler de ce Cléa. Et puis de la validation. Elle me disait, Isabelle, et en préparant notre échange et là au micro, je l'ai validée il y a quelques temps. Dans cette validation, on sent déjà une réussite, mine de rien. Non, Isabelle ?
Oui, parce que quand on m'a annoncé que je l'avais validée, j'étais persuadée de ne pas l'avoir foiré, on va dire. Au contraire, d'autant plus quand on m'a dit qu'on n'est pas beaucoup à le valider du premier coup, mais ça a été une grande surprise.
Alors, c'est important aussi cette notion de, on vient de renouer avec la réussite en validant un CLEA. Qu'est-ce qu'un CLEA et quelle est cette question de validation, Muriel ?
Alors, le CLEA, c'est une certification. Alors, une certification, c'est pas évident à comprendre, mais les certifications, ça comprend tous les diplômes, les titres professionnels, les CQP. Voilà, c'est une certification qui est reconnue par l'État, qui est portée par le COPANEF. Alors là, ça, je rentre pas là-dedans. C'est
ça
un
y est, vous nous perdez. Oui, oui.
Mais en gros, il va venir valider les compétences socles, c'est-à-dire toutes les compétences qu'il faut pour avancer, en tout cas sur la voie professionnelle, mais aussi dans la vie de tous les jours.
On parle de quel type de compétences concrètement ?
Le français, les maths, le numérique, travailler en équipe, travailler en autonomie, les gestes et postures, la sécurité, l'environnement. Voilà, toutes les choses qui sont communes à toutes les professions et qui peuvent aider aussi pour avancer dans la vie tout simplement, remplir des papiers administratifs. Voilà. C'est vraiment le socle. C'est plutôt pour les personnes qui sont peu diplômées. Forcément, ça ne s'adresse pas aux personnes qui ont un bac ou un bac plus 2 validé avec expérience, hein, c'est clair, mais ça permet de valider qu'on a ce socle et que du coup on peut continuer à avancer par l'expérience professionnelle ou par la formation.
Du coup, on valide ce socle, ce qui permet de passer à l'étape d'après. C'est comme ça que ça fonctionne ou pas forcément ? Alors, ça peut être pris par plusieurs voies en parallèle.
Voilà, alors, ce qui est difficile avec le CLEA encore, c'est que vu que c'est nouveau, c'est pas encore forcément beaucoup reconnu par les employeurs. Aujourd'hui, si on met le CLEA sur un CV, c'est clair que l'employeur, vous connaissez pas, il y a pas grand monde qui connaît, donc il va falloir lui expliquer. Mais n'empêche que voilà, c'est important. Alors pour certaines personnes plus que pour d'autres, je pense notamment aux personnes qui sont d'origine étrangère, pouvoir dire j'ai le CLEA. Ça veut dire que les bases en français, elles y sont, alors que comme ça, en entretien de recrutement, c'est pas forcément évident de se rendre compte, ou que les bases en numérique pour une personne un peu âgée, voilà, on a des représentations sur les personnes, ça permet de dépasser ça. Les jeunes travaillent en autonomie au boulot, par exemple, voilà, chacun donne des inquiétudes aux recruteurs, c'est une façon de rassurer le recruteur, mais aussi rassurer les organismes de formation qui, eux, par contre, connaissent.
Passer dans une formation autre, se dire qu'il y a eu un CLEA peut être dans un centre de formation.
Ça veut dire que déjà quand j'apprends, je retiens ce que j'apprends, que j'ai les bases de français. Alors je fais des fautes d'orthographe peut-être, hein. On n'en est pas à ce stade-là. De toute façon, même ceux qui ont le bac maintenant, ils font des fautes d'orthographe. Mais en tout cas, je m'exprime correctement, je comprends ce qu'on me dit. En maths, je sais faire une proportion par exemple, un calcul de volume. Voilà, c'est la base des maths. Je sais faire ça et du coup, je peux aller vers la compétence technique métier.
Très bien. Sur le parcours du coup d'Isabelle, elle nous parlait justement de la validation de ce CLEA. Elle nous a parlé aussi d'une orientation en BPJEPS. C'était un diplôme que vous connaissiez pas forcément d'ailleurs avant d'être orienté au CIBC.
Non, pas du tout.
Du coup, ça fonctionne, j'imagine, par recherche, par fiche métier. Enfin, je sais pas comment fonctionne également précisément votre travail avec les conseillers, mais j'imagine qu'il y a un panel de personnes qui arrivent. Il y a tout autant d'orientations possibles. C'est détecter aussi les compétences et les mettre en adéquation avec un métier possible ou une formation possible.
CIBC, ça veut dire Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences. Donc effectivement, on a tout un tas de tests avec lesquels on peut s'amuser, là encore, pour que les personnes, elles comprennent leur mode de fonctionnement, leur qualité, et effectivement leurs compétences, leur centre d'intérêt également. Voilà, on met tout ça dans un seau, on remue et on discute avec eux de projets. Mais nous, on en fait le moins possible parce qu'on n'est pas super courageux au CIBC. On invite surtout les personnes à en faire le plus possible, c'est-à-dire aller visiter les centres de formation, se renseigner, chercher les fiches métiers. On les met sur des ordis, même s'ils ne savent pas s'en servir, et ils cherchent. En tout cas, c'est l'objectif. Je sais bien que des fois, il y a des conseillères qui se disent « bah allez, je vais vous aider ». Mais l'objectif, c'est quand même qu'ils sachent faire par eux-mêmes, parce que, on a envie qu'ils se passent de nous, quoi. Qu'ils aient plus besoin de nous, qu'ils reviennent pas après le BPJEPS, qu'ils soient capables et qu'ils soient fiers d'y avoir réussi.
Qu'ils aient un accès à l'emploi par la suite.
Qu'ils puissent dire « j'y suis arrivée moi, quoi ». C'est sympa d'entendre Isabelle dire c'est grâce au CIBC, mais voilà, si dans un an elle pouvait nous oublier et dire c'est grâce à moi je préfère.
Très bien. Mais on voit bien en tout cas cette notion d'accompagnement tout en intégrant la compétence des personnes, des humains reçus. Et cette notion-là, elle est importante, je pense. En tout cas, c'est comme ça que nous voyons les choses. Merci beaucoup, Muriel Mougéard, directrice du CIBC. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir témoigné sur votre parcours. Ça rend les choses d'autant plus concrètes. Merci beaucoup.
Pas de rien. Merci.